Vous écoutez, on lit pour vous.
La mère a deux fois plus d'influence que le père sur la langue à laquelle un enfant est exposé. Un texte d'Alex Fontaine paru le 3 février 2025 dans Le Devoir. Le choix linguistique de la mère dans une famille bilingue a deux fois plus d'influence sur l'exposition d'un enfant à une langue que le choix du père, révèle une récente étude de l'Université Concordia. Les parents devraient d'ailleurs se concentrer sur le temps durant lequel leur enfant est exposé à une langue plutôt que d'essayer à tout prix d'adopter une stratégie pour la lui transmettre. Montréal est en quelque sorte le laboratoire parfait pour mener ce type de recherche en raison du nombre important de familles bilingues ou multilingues qui s'y trouvent, explique Andrea Sander-Montant, étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Concordia et co-autrice de l'étude. Son intérêt pour la question vient de loin. Elle a grandi au Mexique avec un père hispanophone et une mère francophone. Madame Sander-Montant et ses collègues Krista Byers-Heinlein et Rebecca Bissonnette se sont notamment intéressés à la populaire approche « un parent, une langue » au sein des familles bilingues, une stratégie recommandée par plusieurs experts et dans la littérature scientifique. Beaucoup de familles se mettent beaucoup de pression pour utiliser cette stratégie-là, mais il n'y avait pas vraiment de preuve que c'était nécessaire ni que c'était la meilleure stratégie, explique Mme Sander-Montant. Les mères deux fois plus influentes que les pères. Le premier constat des chercheuses est que la stratégie « un parent, une langue » n'est pas la plus utilisée par les quelques 300 familles montréalaises qui composent l'échantillon sur lequel l'étude est basée, même si c'est l'approche la plus recommandée. Ça nous dit qu'au final, les familles font ce qu'elles peuvent et utilisent l'approche avec laquelle elles sont le plus à l'aise. La méthode « un parent, une langue » est souvent préconisée car on présume qu'elle mènera à une exposition suffisante aux deux langues des parents, mais la réalité est plus nuancée. L'étude montre que le facteur qui a le plus d'influence sur l'exposition des enfants à une langue n'est pas la stratégie adoptée par les parents, mais plutôt le temps passé par chaque parent avec l'enfant et la langue parlée par chaque parent. Troisième constat, et non le moindre, la langue parlée par la mère a deux fois plus d'influence sur la quantité de langage auquel l'enfant est exposé. Au sein d'une famille dont la mère parle français et le père anglais, par exemple, l'enfant sera beaucoup plus exposé au français. Par contre, si seul le père parlait français, l'enfant y serait beaucoup moins exposé. Une hypothèse avancée pour expliquer ce constat est que la mère passe souvent plus de temps avec l'enfant que le père, ce qui augmente l'exposition à la langue qu'elle utilise. Diminuer la pression. Il y a là matière à réflexion pour les familles. Pour moi, le plus important est de changer cette perspective selon laquelle le plus important est de suivre une stratégie et de se mettre de la pression pour la suivre, affirme Andrea Sander-Montant. Elle préconise plutôt de se concentrer sur le nombre d'heures d'exposition de l'enfant à chaque langue. D'ailleurs, insister de façon très stricte pour que l'enfant réponde dans une langue prédéterminée à chaque parent peut avoir des conséquences défavorables pour l'enfant, car il peut commencer à avoir des réflexes de rejet par rapport à cette langue. C'est mieux d'avoir des interactions très confortables, de bonne qualité et de passer assez de temps avec l'enfant dans chaque langue, que de se forcer à suivre une stratégie stricte de transmission, conclut Mme Sander-Montant. C'était « La mère a deux fois plus d'influence que le père sur la langue à laquelle un enfant est exposé », un texte d'Alex Fontaine paru le 3 février 2025 dans Le Devoir.
La solitude bénéfique. Un texte de Marissa Grosguet paru le 27 avril 2025 dans La Presse. Être seul, par choix et temporairement, représente de nos jours une précieuse source de bonheur. comment appliquer cette solitude parfois redoutée à nos vies. Le jour de mon anniversaire, à l'automne 2016, j'arrive à Londres seul. Je me suis offert une chose à laquelle je n'avais encore jamais goûté. Un peu de solitude. Une dizaine de jours à moi. Un exil où je prévois de parler au moins de gens possibles et m'abandonner à mon envie d'explorer. Après une promenade nocturne dans cette ville pluvieuse, le temps maussade me force la main. Je rentre à l'hôtel. L'état de solitude dans lequel je me trouve me frappe alors. Plutôt que de ressentir l'allégresse prévue, je me retrouve isolé, délaissé, triste. Ça ne dure qu'un instant. Bien vite, la solitude me comble. Pourquoi le fait d'être seul a-t-il toutefois provoqué cette soudaine peur, cette honte même? Et pourquoi la solitude m'a-t-elle finalement été si bénéfique? Lorsqu'on se place dans le contexte du développement de l'humanité, pour les premiers humains, être seul a été associé au danger. Sans reculer si loin, l'isolement ou la solitude peut nous rendre plus vulnérables. On a ces réflexes bien établis en nous, répond le psychologue Michel Giroux, auteur du texte « La solitude heureuse », tiré de son ouvrage « La psychologie des gens heureux », publié sur le site du CHU de Québec. Cependant, devenir soi-même requiert de nous rencontrer souvent et intimement dans la solitude, lit-on dans son livre. La solitude est un très bon complice du bonheur profond, ajoute l'expert au téléphone. Dans le développement d'une personne, de l'enfance jusqu'aux dernières années de sa vie, la solitude permet de se construire, de découvrir son autonomie, sa confiance en soi, sa capacité à compter sur ses propres ressources. L'idée n'est pas forcément de ne rien faire, mais plutôt de trouver des moments où l'on est bien sans les autres. Que ce soit en ne meublant pas ses vacances d'activité sociale, en se laissant des soirées libres pour lire ou méditer, en faisant une promenade en nature, ou même, si on le peut, en partant en voyage en solo. Michel Giroux, psychologue, nous rappelle « Un voyage seul, c'est un défi d'autosécurité, d'autodéveloppement, de débrouillardise. C'est aussi l'occasion de faire taire le reste pour se rencontrer vraiment. Prendre le temps de vivre ses émotions. De créer un pont avec ce qu'il nomme son moi profond. Pour certains, des parents de jeunes enfants, par exemple, ces moments seront plus rares, mais peuvent être d'autant plus salutaires. Se changer soi-même, dit la philosophie. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je suis pleinement moi et à moi, sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement être ce que la nature a voulu, a écrit le philosophe Jean-Jacques Rousseau, reconnu pour ses réflexions sur cette solitude qu'il a longtemps poursuivie. Il était question pour lui d'un besoin essentiel humain de se trouver seul à la recherche d'un bonheur plus modeste que celui de la société. Pour les philosophes, le bonheur n'est rien de moins que le but même de la vie humaine, rappelle Josiane Boulat-Ayoub, professeure émérite de philosophie moderne à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Pour elle, grande gourmande, un plat de frites est une passerelle vers le bonheur, lance-t-elle en riant. C'est relatif, ajoute Madame Boulat-Ayoub, car chacun a ses propres sources de contentement. Mais existe-t-il pour tout le monde une passerelle commune vers le bonheur qui serait déployée par la solitude? L'approche stoïcienne dit que plutôt que de changer l'ordre du monde, c'est en se changeant soi-même que l'on trouve le bonheur, répond la professeure de philosophie, autrice du texte « Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre », alors que tout s'agite autour de nous. Se tourner vers soi-même représente une source sûre de contentement. Un moment de solitude permet à tout le moins de mieux identifier nos besoins profonds. Le bonheur reste une affaire individuelle et on peut le trouver en s'éloignant du babillage des autres, selon Josiane Boulad-Ayoub. Solitude choisie. Un repli sur soi, temporaire, a également le bénéfice de nous apprendre à nous contenter de ce que l'on est et ce que l'on a. La solitude, dans cette optique, est une pause. L'idée n'est pas d'en faire une chose permanente, mais plutôt de se l'accorder assez régulièrement pour y trouver un bénéfice. Bien sûr, lorsqu'elle est subie plutôt que choisie, la solitude peut s'avérer le pire des fardeaux. L'être humain est un animal social, fondamentalement. Être seul est ainsi l'occasion de mieux apprécier ses relations lorsqu'on les retrouve. Si mes besoins, mes désirs et mes actions dépendent des autres, ça devient appauvrissant, dit Michel Giroux. Être en contact avec la qualité d'être seul permet de mieux développer la qualité des relations. Josiane Boulad-Ayoub acquiesce à cette réflexion. La philosophie évoque aussi cette idée que la solitude permet de renouveler le regard sur soi-même, mais également sur les autres et sur le monde. Jean-Jacques Rousseau le disait, « C'est surtout dans la solitude qu'on sent l'avantage de vivre avec quelqu'un qui sait penser. » C'était « La solitude bénéfique », un texte de Marissa Grosgué, paru le 27 avril 2025 dans La Presse.
La lutte contre l'antibiorésistance passe aussi par les élevages. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 3 avril 2025 dans Québec Science. La consommation élevée d'antibiotiques dans les fermes d'élevage favorise l'apparition de bactéries résistantes et menaçantes pour la santé humaine. Comment changer les pratiques? Selon un sondage national publié en 2022, les deux tiers, 68 % de la population canadienne, connaissent le terme « résistance aux antibiotiques ». Toutefois, ce sujet est généralement abordé dans le contexte de notre système de santé, ce qui néglige une source importante d'antibiorésistance, l'élevage. Au Canada, les animaux de ferme, 22 fois plus nombreux que les êtres humains, consomment plus de 80 % des antibiotiques. Cela représente un peu plus de 1 000 tonnes de ces médicaments par année, selon le rapport de 2022 du Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Selon d'autres données de 2022 comparant une trentaine de pays européens au Canada, ce dernier figurait au quatrième rang pour la quantité d'antibiotiques utilisés chez les animaux d'élevage en tenant compte du nombre d'animaux et de leur poids. Le problème, c'est que ces animaux consomment des antibiotiques identiques à ceux qui sont utilisés en médecine humaine ou très proches d'eux. Si bien qu'une bactérie résistante à un antibiotique vétérinaire sera également insensible aux médicaments humains. Or, dans les élevages, l'utilisation élevée et parfois inappropriée des antibiotiques favorise l'apparition de bactéries antibiorésistantes potentiellement dangereuses à la fois pour les animaux et nous-mêmes. C'est un enjeu massif, lance Dominique Poulin-Laprade, chercheuse scientifique chez Agriculture et Agroalimentaire Canada. Alors, pourquoi utilise-t-on autant d'antibiotiques vétérinaires? Tout d'abord parce qu'on en donne encore à titre préventif à des animaux sains, alors que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande depuis 2015 de ne plus le faire. Ainsi, on en administre à des bêtes en santé lorsque quelques individus de l'élevage sont atteints d'une maladie contagieuse ou lors de périodes de vulnérabilité. Par exemple, chez le porc, on en donne à la truie lors de la mise bas, puis au jeune mâle lors de la castration et surtout à toute la progéniture lors du sevrage, explique Dominique Poulin-Laprade. En outre, Jusqu'en 2018, au Canada, on pouvait ajouter des antibiotiques à faible dose à l'alimentation des animaux dans le but d'accélérer le gain de poids, ce qui se produit par divers mécanismes physiologiques. Après l'interdiction de cette pratique, la vente d'antibiotiques a chuté de 10 % et elle est restée généralement stable depuis, avec quelques variations selon le type d'élevage. Si le Québec a mis en place d'autres mesures restreignant l'usage de ces médicaments il y a plusieurs années, les autres provinces ont traîné la patte. Et toutes ont encore du chemin à parcourir. Les autorités agroalimentaires augmentent présentement leurs efforts pour une meilleure antibiogouvernance, un néologisme du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC. Or, pour agir efficacement, il faut ajouter le facteur environnemental aux éléments animaux et humains et traiter les trois comme les composantes d'un ensemble global. C'est l'approche « une seule santé » préconisée par l'OMS. Une approche globale. L'environnement est en effet propice aux échanges microbiens entre animaux et êtres humains. Par exemple, le fumier et le lisier épandus dans les champs peuvent contenir des bactéries antibiorésistantes excrétées par les animaux qui risquent de contaminer des récoltes, le cas le plus inquiétant étant celui des légumes et des fruits consommés crus. Ces déjections peuvent également contenir des antibiotiques qui contribueront à sélectionner des bactéries du sol résistantes. Même si celles-ci ne sont pas nécessairement pathogènes, elles ont quand même la capacité de transmettre à des bactéries infectieuses les fragments d'ADN leur conférant cette résistance. De plus, le ruissellement des eaux de pluie risque d'entraîner antibiotiques et bactéries vers une source d'eau potable ou un lac destiné à la baignade. Cela dit, il n'y a pas de consensus scientifique sur le risque réel de ces mécanismes sur la santé humaine, fait valoir Hugo Plante, vétérinaire au MAPAC. Cependant, il est clair que les élevages, l'environnement et la population humaine sont des vases communicants en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques. Autrement dit, même si le risque n'est pas quantifié, il faut s'en préoccuper. Au Canada, l'approche « une seule santé » fait intervenir plusieurs organismes tels que l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, Environnement et changement climatique Canada, Pêche et Océan Canada, sans compter les partenaires provinciaux et ceux du secteur privé. Sur le plan national, le Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, PICRA, consiste à suivre l'évolution de l'antibiorésistance au Canada, notamment en surveillant les chaînes agroalimentaires depuis des fermes sentinelles d'élevage, dont une vingtaine sont au Québec, jusqu'aux magasins d'alimentation. Le Québec contribue à l'effort collectif avec, entre autres, le Programme québécois d'antibiosurveillance vétérinaire, coordonné par le MAPAC. Il consiste à effectuer des analyses de prélèvements sur des animaux malades ou morts. Les résultats sont colligés dans le rapport de la surveillance de l'antibiorésistance, régulièrement mis à jour. Globalement, je suis rassuré sur la situation et sur ce qu'on fait au Québec, déclare Julie-Hélène Fairbrother, vétérinaire au MAPAC et co-autrice du rapport. Mais certaines bactéries, résistantes à plusieurs antibiotiques, retiennent notre attention. C'est le cas de la salmonelle Dublin, qui peut aussi infecter les populations humaines. Elle nous a fait peur quand elle est arrivée des États-Unis par les bovins il y a une douzaine d'années, relate Jean-Philippe Roy, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et pour cause, elle résiste à 5 antibiotiques sur les 7 disponibles, dont un sur les 2 de dernier recours. Heureusement, peu de troupeaux sont touchés chaque année, dit le scientifique. Vous écoutez, la lutte contre l'antibiorésistance passe aussi par les élevages. Résistance. On parle d'antibiorésistance lorsque des bactéries deviennent insensibles à un ou à plusieurs antibiotiques. Toutes les bactéries peuvent acquérir ce type de résistance, les bactéries inoffensives ou pathogènes pour les humains ou les animaux, aussi bien que celles présentes dans l'environnement. De plus, Ces micro-organismes sont capables de transférer à d'autres leurs gènes conférant une antibiorésistance, ce qui mène à la propagation de celle-ci d'une souche à une autre. Plus on utilise d'antibiotiques, plus on favorise les bactéries résistantes en éliminant celles qui y sont sensibles. En 2018, au Canada, l'antibiorésistance a causé 5 400 décès et une perte de 1,4 milliard de dollars au système de santé canadien. Selon l'OMS, la résistance aux antibiotiques est l'une des principales menaces pour la santé publique sur la planète. Quelques pistes d'action pour utiliser moins d'antibiotiques vétérinaires. 1. La prévention des maladies. Vaccination, diminution de la densité d'animaux ou meilleure ventilation des locaux d'élevage pour limiter la contagion, meilleur souci du bien-être animal, meilleure gestion du fumier et du lisier. 2. De meilleurs diagnostics. Les nouveaux tests d'identification de bactéries par leur ADN sont plus rapides que ceux nécessitant des cultures bactériennes, 2 jours au lieu de 5 à 7, et moins chers. On vérifie donc plus vite et plus facilement si une bactérie est en cause. On administre alors le meilleur antibiotique contre elle au lieu d'un antibiotique moins ciblé en patientant pour les cultures. 3. Un suivi précis de l'utilisation des antibiotiques. Le MAPAC travaille à monter un système de suivi des ventes d'antibiotiques aux différents utilisateurs, dont les lieux d'élevage. Son déploiement est prévu d'ici 2027. Ça nous permettra de connaître les quantités d'antibiotiques utilisées dans chaque ferme et par type de production, dit Hugo Plante. Ainsi, on recensera les tendances d'utilisation et on trouvera des pistes d'amélioration. 4. Une meilleure coordination de l'antibio-gouvernance. L'approche « une seule santé » exige de rassembler des partenaires de milieux différents. Une partie des efforts consiste à ne plus travailler en vase clos, à établir des relations de confiance et un langage commun, explique Dominique Poulin-Laprade. Nous avons monté un groupe de travail réunissant des scientifiques, des vétérinaires, des producteurs, etc., pour établir nos priorités autour d'une vision commune, ajoute Hugo Plante du MAPAC. La modération avant tout. La priorité, c'est de réduire le recours aux antibiotiques, ce qui signifie les utiliser uniquement quand c'est nécessaire et éviter les usages non prescrits, comme soigner une diarrhée avec un antimicrobien recommandé contre une maladie respiratoire. Au Canada, depuis 2018, pour obtenir un antibiotique, un producteur doit absolument avoir une prescription d'un médecin vétérinaire. Au Québec, c'est le cas depuis 1984, dit Jean-Philippe Roy. L'Ordre des médecins vétérinaires a aussi imposé une formation à tous ses membres sur l'usage judicieux des antibiotiques. On sensibilise aussi les producteurs. Dans le milieu de l'élevage, on prend le problème au sérieux, mais les producteurs se plaignent d'être désavantagés parce que la viande importée, comme le bœuf brésilien, n'est pas toujours soumise aux mêmes exigences, ajoute M. Roy. De plus, en 2019, le Québec a instauré un règlement qui a maintenant un équivalent au fédéral pour préserver l'efficacité des antibiotiques de catégorie 1, soit d'importance critique en médecine humaine. On ne peut désormais les prescrire qu'en thérapie et non plus en prévention, et uniquement après avoir démontré le manque d'antibiotiques efficaces dans des catégories de moindre importance. Ce genre de restriction met toutefois en lumière un autre problème, la faible diversité des antibiotiques autorisés au Canada. Dans le cas des mammites bovines, une inflammation du pie, on dispose ici de seulement 2 antibiotiques efficaces, dont un de catégorie 1. En pratique, on se retrouve alors avec un seul antibiotique pour traiter toutes les infections, peu importe la bactérie, déplore Jean-Philippe Roy. On surutilise donc certains antibiotiques, alors qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs contre l'agent infectieux en cause. Or, si un antimicrobien ne terrasse pas complètement ou assez rapidement les bactéries qu'il cible, il laisse une chance à celles qui possèdent une faible résistance d'en acquérir une plus forte. Les États-Unis et l'Europe ont un plus grand choix d'antibiotiques, car leurs marchés sont plus grands et les compagnies pharmaceutiques sont prêtes à payer les frais pour y faire homologuer leurs antimicrobiens. Autre problème limitant la diversité de notre arsenal antibactérien vétérinaire selon le scientifique. Les compagnies pharmaceutiques ont un retour sur investissement 20 fois plus élevé en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire. Elles préfèrent également investir dans les vaccins plutôt que dans les antibiotiques. Enfin, la recherche de nouveaux antibiotiques en général semble en panne depuis 20 ans. Les plus récents sont habituellement des antibiotiques déjà sur le marché, dont on a légèrement modifié la structure chimique. Pour contourner l'antibiorésistance, la recherche s'oriente aussi vers des traitements antimicrobiens nouveaux genres, comme les bactériophages, ou non utilisés en médecine humaine, comme les bactériocines. En attendant, la meilleure approche reste de réduire l'utilisation des antibiotiques en santé animale comme en santé humaine. Deux santé liées par un antibiotique. Au début des années 2000, le PICRA relève une augmentation de cas de salmonellose Heidelberg résistante au ceftiofur chez la volaille et à son homologue chez les humains, le ceftriaxone. On pointe alors du doigt son utilisation en prévention dans les couveuses. En réaction, l'industrie en cesse volontairement l'utilisation. Résultat, le nombre d'infections résistantes diminue, tant chez l'animal que dans la population humaine. Puis, l'industrie réintroduit le ceftiofur. À nouveau, augmentation des cas dès 2013, diminution de l'utilisation de l'antibiotique et forte réduction du nombre de cas. Ce contrôle de la résistance au ceftiofur est vraiment une « success story » dont on parle encore à ce jour, se réjouit Dominique Poulin-Laprade. Toutefois, on peut s'étonner de l'utilisation d'un homologue vétérinaire de la ceftriaxone qui était déjà catégorisé à l'époque comme « d'importance très élevée pour la santé humaine » et contre laquelle on avait observé de la résistance dès 2002. Et surtout de sa réintroduction après une première flambée d'antibiorésistance. Historiquement, les antibiotiques étaient perçus comme un outil de développement économique. La science n'était qu'un des critères considérés parmi, entre autres, les intérêts des parties prenantes ou les prix à l'épicerie, explique la scientifique. C'était « La lutte contre l'antibiorésistance passe aussi par les élevages ». Un texte de Bruno Lamollet, paru le 3 avril 2025 dans Québec Science.